L'Iran soutient le cessez-le-feu en cours au Yémen, a réitéré le ministre iranien des Affaires étrangères. Une base militaire turque dans le nord de l'Irak a été attaquée. Et le président burkinabé au Niger pour discuter de la lutte contre le terrorisme. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que l'Iran soutenait le cessez-le-feu en cours au Yémen, le qualifiant de précurseur potentiel pour l'établissement d'une paix durable dans ce pays ravagé par la guerre. Le chef de la diplomatie iranienne a fait ses remarques à Téhéran dimanche 11 septembre lors d'une rencontre avec Mohammad Abdussalam, porte-parole du mouvement de résistance populaire yéménite Ansar Allah, qui s'est rendu en Iran pour rencontrer de hauts responsables iraniens. Monsieur Amir Abdollahian a mis l'accent sur l'existence d'une relation profonde et historique entre l'Iran et le Yémen, déclarant « La République islamique d'Iran a toujours exprimé son soutien à la réalisation des exigences et de la volonté du peuple yéménite. Le responsable iranien a également exprimé l'espoir d'une élimination complète du siège que l'Arabie saoudite et ses alliés imposent à la nation yéménite depuis 2015. M. Abdussalam a exprimé sa gratitude envers la République islamique d'Iran pour son soutien au peuple yéménite, informant le ministre iranien des Affaires étrangères des derniers développements survenus dans son pays. Le responsable yéménite a critiqué la coalition dirigée par l'Arabie saoudite pour sa mise en œuvre insuffisante des principaux éléments du cessez-le-feu. Il a considéré que le respect de la coalition pour les questions humanitaires au Yémen était crucial pour l'avancement d'une paix juste dans ce pays. Une trêve négociée par les Nations unies est entrée en vigueur en avril dernier entre la coalition saoudienne et Ansar Allah du Yémen. La trêve a été prolongée à deux reprises. Le ministre syrien de l'Industrie, Ziad Sabah, a examiné ce lundi 12 septembre avec l'ambassadeur d'Iran à Damas, Mahdi Sobhani, la coopération bilatérale dans le domaine industriel et la coordination conjointe entre les deux pays amis pour reprendre les travaux dans les entreprises industrielles communes en Syrie, surmonter toutes les difficultés et échanger des expertises. Le ministre Sabah a discuté avec M. Sobhani des derniers développements de la situation économique et industrielle en Syrie à la lumière des efforts déployés pour surmonter les répercussions de l'embargo et de la guerre économique imposée à la Syrie. Pour sa part, l'ambassadeur d'Iran en Syrie a réitéré la position de son pays envers le soutien à la Syrie et le renforcement de la coopération et du partenariat industriel entre les deux pays de manière fructueuse et prometteuse. Pour la deuxième fois depuis fin août, une base militaire turque dans le nord de l'Irak a été attaquée. Ce dimanche 11 septembre, la chaîne de télégramme Saber News de l'Irak a fait état de la prise pour cible d'une base militaire turque dans le nord de l'Irak par un missile guidé de type 9M113 Concourse. C'est une deuxième depuis le 31 août où la base militaire turque située dans la région de Bamerni, dans la province de Douk, en Kurdistan irakien, a été la cible d'une frappe de missile Concourse. Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attaque contre la base turque dans le nord de l'Irak. Mais une vidéo a été diffusée par la chaîne Guerilla TV, affiliée au groupe Parti des travailleurs du Kurdistan. L'armée turque affirme avoir une présence militaire dans le nord de l'Irak pour combattre le Parti des travailleurs du Kurdistan. Cependant, le gouvernement de Bagdad qualifie cette présence d'occupation et la considère comme une violation flagrante de l'intégrité territoriale de l'Irak. Des terroristes Daesh ont tué dimanche 11 septembre 6 personnes qui circulaient sur une route de la province de Hasaké dans le nord-est de la Syrie. Les 6 victimes, dont l'identité n'est pas encore connue, ont été prises en embuscade par des terroristes de Daesh sur la route de Rourafi, qui conduit à la province de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. Cette embuscade porte à 130 le nombre d'attaques commises en 2022 dans des zones contrôlées par les forces démocratiques syriennes FTS, dirigées par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Au total, ces attaques ont fait 104 morts, dont 37 civils et 67 éléments des FTS. 4 Palestiniens ont été blessés et 20 autres arrêtés lors de l'envahissement par les forces d'occupation israéliennes de plusieurs zones en Cisjordanie. L'agence de presse palestinienne Wafa a fait savoir lundi 12 septembre qu'un grand nombre de forces d'occupation israéliennes avaient pris d'assaut la ville de Jenin au milieu des tirs de feu, ce qui a fait 4 Palestiniens blessés, dont une fille, et 7 autres arrêtés. Les forces d'occupation ont également pris d'assaut plusieurs quartiers de Naplouse, les champs de Ralandia à Rots occupés et Aïda à Bethléem, et les localités d'Idna et Betava à Al-Khalil, ayant arrêté 16 Palestiniens. Deux missiles de croisière de fabrication américaine ont été interceptés avec succès par les systèmes de défense aériens russes, ont annoncé dimanche 11 septembre des sources informées. Il s'agit d'un incident de nature très grave dans la mesure où c'est la première fois que des armes américaines sont utilisées près de la frontière russe. Le ministère russe de la Défense précise que les deux missiles de croisière américains de type AGM-35 ARM ont été détruits avec succès par les systèmes antimissiles russes dans la zone de Kharkiv, à seulement quelques kilomètres de la frontière avec la région de Belgorod. Alors qu'il est, l'endroit d'où les missiles ont été tirés reste inconnu. Néanmoins, une telle attaque menée par les forces armées ukrainiennes s'inscrit dans le cadre d'une tentative d'agression contre la Russie, ce qui pourrait avoir des répercussions irréversibles pour Kiev. Aujourd'hui, de tels missiles peuvent être transportés non seulement par des chasseurs MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne, mais également par des chasseurs Su-27. Le président burkinabé de transition, Paul-Henri Damiba, était à Niamey dimanche 11 septembre pour rencontrer le président Mohamed Bazoum. Les questions sécuritaires préoccupent les dirigeants voisins de la zone dite Détroit Frontière. Ils ont parlé de la mutualisation des moyens, des échanges d'informations et surtout d'opérations conjointes pour combattre les terroristes. C'est accompagné de ses ministres de la Défense nationale, des Affaires étrangères et du commandant des opérations du théâtre national que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a été reçu au palais présidentiel à Niamey dimanche. Cette visite de travail de quelques heures a permis aux deux chefs d'État d'apprécier la situation sécuritaire et de trouver, dit-on, les meilleures stratégies pour coordonner la traque contre les groupes armés sur leurs frontières. À la sortie de son entretien avec le président du Niger, le chef de l'État burkinabé a déclaré que la question de l'insécurité est préoccupante sur les trois frontières. Le Niger et le Burkina Faso ont à leur actif un accord de coopération militaire et plusieurs opérations conjointes le long de leurs frontières. On peut citer les grandes opérations Tanli 1, 2 et 3 qui ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes et de récupérer du matériel. Avant de regagner son pays, le lieutenant-colonel Damiba s'est rendu au consulat du Burkina Faso à Niamey. Officiellement, au moins 1 million de Burkinabés vivent au Niger. Le président burkinabé a également rencontré le médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso, l'ancien président Mamadou Issoufou. Le Sénégal va franchir une nouvelle étape lundi 12 septembre avec l'entrée en fonction de la plus grande proportion de femmes parlementaires jamais atteintes en Afrique de l'Ouest. Plus de 44% des sièges de la prochaine Assemblée nationale du Sénégal seront occupés par des femmes, soit la plus forte proportion de tous les pays de la région. Le pays se classe au 4e rang en Afrique et au 18e rang dans le monde pour la parité hommes-femmes au Parlement, devant la Suisse, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, selon l'Union interparlementaire, une organisation basée à Genève. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'OTAN contre l'Iran. Quel risque ? La colère grandit en Europe face à la flambée des prix de l'énergie. Des manifestants descendent dans la rue à Vienne, la capitale autrichienne, et des manifestants italiens attaquent le ministre des Affaires étrangères du pays à Naples. Samedi 10 septembre, des manifestants anti-gouvernementaux ont organisé des rassemblements à Vienne, scandant des slogans contre l'Union européenne, l'OTAN, les mondialistes et le chancelier Alexandre Jalimberg. Les manifestants, qui portaient des drapeaux autrichiens, ont exprimé leur opposition aux sanctions anti-Moscou de Bruxelles. En Italie, selon des informations, le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a été attaqué et qualifié de traître par des manifestants alors qu'il arrivait samedi à Naples pour présenter le plan de son parti avant les élections générales de ce mois-ci. Et que fait l'Europe en réaction? Deux ingénieuses mesures. Elle fixe un plafond pour le prix du pétrole russe et dans le même temps dit un non définitif au pétrole iranien, quitte à se fermer définitivement tout accès au pétrole iranien. Et pourquoi ? Pour plaire à l'entité sioniste et à ses maîtres américains. L'Iran a critiqué la dernière déclaration non consultative et irréfléchie publiée par les trois signataires européens de l'accord nucléaire de 2015, affirmant que le 3 doit en accepter les conséquences s'il continue à suivre l'exemple d'Israël. Soulignant l'inaction de le 3 ces derniers mois et sa décision politiquement motivée de proposer une résolution contre l'Iran, qui a été adoptée par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique en juin, le responsable iranien a conseillé aux trois pays de jouer un rôle actif dans la fourniture d'une solution pour mettre fin à quelques points de désaccord restant au lieu d'entrer dans la phase de destruction du processus diplomatique. L'échec maximal des États-Unis dans la campagne de pression maximale devrait être une leçon pour toutes les parties qui pensent que les menaces et les sanctions peuvent empêcher le peuple iranien de faire valoir ses droits maximaux et de protéger ses intérêts, a déclaré M. Kanani. Le comportement suicidaire des Européens est d'autant plus gratuit que l'entité sioniste ne peut se garder de laisser éclater sa joie et de féliciter l'Europe de s'être planté un couteau dans le dos pour cause d'intérêt sioniste. Après la publication de la nouvelle déclaration de la Troïka européenne sur les négociations nucléaires avec l'Iran, le premier ministre israélien Yair Lapid a apprécié la position de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre concernant la relance de l'accord nucléaire. Lapid a déclaré « Je remercie la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne pour leur position ferme là-dessus. Nous avons eu, ces derniers mois, une conversation intense avec les trois parties et nous leur avons donné des informations actualisées sur les activités de l'Iran dans ses sites nucléaires. Nos efforts pour empêcher l'accord avec l'Iran ne sont pas encore terminés, mais il existe désormais des signes encourageants. Nous cherchons à empêcher l'Iran de créer des bases dans la région, en particulier en Syrie. » Eh bien, toutes ces allégations que raconte Lapid et qu'il relie au nucléaire iranien, le 3 est-elle consciente d'en faire partager la responsabilité rien qu'en publiant ce communiqué ? Ainsi, à tout hasard, les frappes aériennes sionistes contre la Syrie, que la résistance en fait désormais payer le prix au contingent US, eh bien, elle pourrait en faire autant au contingent otanien, si, comme le dit Lapid, le 3 partage, comme lui, l'idée de la nécessité de raser tous les 2 ou 3 jours les infrastructures syriennes dans la perspective parfaitement stérile de mettre à la porte syrienne l'Iran. Mais ceci n'est qu'un seul aspect du danger auquel s'expose la sorte l'Europe dans la mesure où elle vient aussi fourner son nez dans une affaire, elle aussi montée de toutes pièces par les agents sionistes, et qui est l'histoire d'une cyberattaque anti-Albanie, pour le compte de quoi les États-Unis ont menacé l'Iran d'un recours à l'article 5 de l'OTAN. Pour l'heure, cette menace n'a été concrétisée que via une énième sanction décidée contre le ministère iranien du renseignement que les États-Unis disent être le responsable de l'attaque. De cette sanction, le ministère de l'Iran se fiche royalement. Mais il se pourrait que l'Europe, toujours pour plaire au sionisme, veuille aller plus loin. Mais a-t-elle pensé qu'en sera-elle si la résistance décidait de s'en prendre aux intérêts otaniens au Moyen-Orient ?